entièrement gratuit qui célébrera la diversité dans notre belle région.
Le retour à Siki, une présentation Atelier Décor Mercier, votre détaillant d'éco-surface, bien plus que des surfaces, au 27 avenue Sainte-Brigitte, Montmagny.
L'inimitable.
Au réseau Cogeco Média. Voici le Québec maintenant. Votre point de repère. Le Québec maintenant. Avec Philippe Quentin.
Bienvenue à la troisième heure de l'émission. J'accueille avec plaisir les auditeurs et les auditrices de la région de l'Outaouais qui se joignent à nous. Et dans quelques minutes, je recevrai le ministre démissionnaire de l'économie du Québec, Pierre Fitzgibbon. Monsieur Fitzgibbon est déjà en studio. Je l'aperçois en régie. Et j'ai bien hâte de pouvoir lui poser les questions. Des questions, je pense que tout le monde, hein, nos auditeurs, nos auditrices, ont le goût de lui poser à la suite de la décision là, du gouvernement Legault et de Monsieur Fitzgibbon. Monsieur Fitzgibbon qui quitte ses fonctions. Mais d'abord, les nouvelles avec Caroline Bertrand.
Les actualités Cogeco Nouvelles.
Bonjour Caroline.
Salut Philippe.
À Ottawa, les libéraux devront revoir leur stratégie pour continuer à gouverner sans plonger le pays en élection.
Oui, avec le NPD qui a donc annoncé aujourd'hui qu'il déchirait l'entente, qu'il les maintenait au pouvoir depuis 2 ans et demi, qui maintenait donc le Parti libéral au pouvoir. Les conservateurs et les bloquistes qui vont aussi tenter de sortir leur épingle du jeu. Le reportage de Fanny Sanson.
Le chef néo-démocrate Jack Metzing choisit de prendre ses distances du Parti libéral.
J'ai mis fin à notre entente.
Justin Trudeau devra donc à la pièce aller chercher des appuis au sein des autres partis. Le chef du Parti conservateur, Pierre Poilievre, accuse le chef du NPD d'avoir orchestré un coup d'éclat médiatique sans conséquence.
Le Bloc va devoir décider avec Jagmeet Singh. Est-ce qu'ils voteront encore pour une 189e fois pour garder Justin Trudeau au pouvoir?
Le Bloc québécois, lui, y voit une opportunité.
C'est l'occasion pour le Bloc québécois de faire la promotion des intérêts du Québec et d'arracher des gains pour les Québécois.
Le premier ministre Justin Trudeau persiste et défend son mandat.
Pour moi, je reste optimiste qu'on va pouvoir faire fonctionner le Parlement.
Les parlementaires seront de retour en chambre le 16 septembre. Fanny Sanson, Cogeco Nouvelles, Montréal.
Et ça se complique pour Denis Coderre, l'ancien maire de Montréal, candidat à la chefferie du Parti libéral du Québec. Voilà que de nouveaux problèmes avec le fisc, le confrontent.
Oui, effectivement, et ça suscite un certain malaise, chez certains députés du caucus libéral, l'ancien maire de Montréal, qui doit finalement 134 000 $ à Revenu Québec. L'Agence québécoise a inscrit une deuxième hypothèque légale sur une résidence de Montréal-Nord qui lui appartient. On va écouter à ce sujet la députée Désirée Mégoua qui ne mange pas ses mots, suivie de son collègue Frédéric Beauchemin qui réfléchit lui aussi à se lancer dans la course.
On verra pour les règles, mais quelqu'un qui ne paie pas ses impôts, pour moi, ça disqualifie comme candidat. Je suis désolée, mais au Québec, on paye nos impôts.
M. Collard doit régler ses histoires, puis s'il règle ses histoires, puis c'est correct, puis tout est beau, bien, il pourra continuer. Mais s'il n'est pas capable de régler ses histoires, j'assume qu'il va prendre une décision.
Et je vous signale que nous aurions aimé plutôt recevoir M. Coderre en entrevue, mais il a décliné un petit peu plus tôt aujourd'hui notre demande. Troisième baisse consécutive pour le taux directeur.
Oui, la Banque du Canada qui l'a baissé d'un quart de point de pourcentage aujourd'hui pour le faire passer à 4,25%. La Banque centrale a choisi d'aller de l'avant avec cette nouvelle réduction dans un contexte où les pressions inflationnistes continuent de s'atténuer. Et le gouverneur de la Banque du Canada, Tiff Macklin, a noté que si l'inflation poursuit sa tendance à la baisse, il pourrait y avoir d'autres baisses de taux.
On va continuer d'évaluer les forces opposées qui agissent sur l'inflation et de prendre nos décisions de politique monétaire une à la fois.
Et Caroline, sans surprise, les compagnies d'assurance du pays ont traité un nombre record de demandes de règlement cet été.
Ouais, on a eu quelques événements quand même qui ont chamboulé l'été. Notamment, il y a eu des inondations à Toronto et dans d'autres régions du sud de l'Ontario. Les feux de forêt à Jasper, la tempête de grêle à Calgary et des inondations dans plusieurs régions du Québec. Donc, en 4 semaines, l'industrie qui a traité 228 réclamations. L'an dernier, les assurances, Philippe, avaient déclaré avoir reçu 113 demandes en juillet et en août et 160 000 pour toute l'année. C'est donc une augmentation de 406% par rapport à la moyenne des 20 dernières années.
Ouais, et peut-être qu'en raison des phénomènes climatiques, c'est une tendance qui est lourde et qui est appelée à perdurer. Merci beaucoup, Caroline. On se retrouve dans environ une heure.
À Montréal. Parce que vous voulez. voulez tout savoir. On fait le point sur l'actualité. Jusqu'à 18h30, vous écoutez Le Québec maintenant. Au réseau Cogeco Média. Voici Philippe Quentin.
Il est 17h05 dans un moment, je m'entretiendrai avec le ministre démissionnaire de l'économie du Québec, Pierre Fitzgibbon. Monsieur Fitzgibbon vient d'entrer en studio. Bonjour.
Bonjour, M.
Vous allez bien?
Oui, très bien.
Oui, grosse journée quand même pour vous aujourd'hui.
Oui, beaucoup d'émotions.
Oui, j'imagine. Vous avez un sourire quand même au visage. Catherine.
Vous vous souvenez, la semaine dernière, je vous ai annoncé que le groupe Oasis était pour être de retour pour une tournée, donc la réunion des frères Liam et Noel Gallagher. Eh bien, la vente des billets a été un enfer après que des millions de fans ont enduré une attente interminable. Il y a eu des pannes sur le site et la hausse des prix parce que, étant donné qu'il y avait une très, très forte demande, on le sait, Ticketmaster utilise la tarification dynamique, c'est-à-dire que le prix module en fonction de la demande. Eh bien, les billets se sont mis à tripler de dollars. C'est-à-dire que des billets autour de 250 $ se sont retrouvés autour de 750 $. Il n'y avait plus de billets disponibles. Alors, les autorités britanniques ont décidé qu'on était pour faire une enquête autour de ce système de tarification dynamique. On va se prêter. Déjà, on avait commencé à réfléchir à la situation, mais je pense que la situation avec Oasis a accéléré les choses.
Merci beaucoup, Catherine. On se revoit demain. Valérie Beaudoin, dans ta chronique américaine, tu nous parles de cette fusillade aujourd'hui.
On a des détails. Le tireur, un jeune de 14 ans de l'école secondaire, deux étudiants, deux professeurs qui ont perdu la vie. Donc, on va se parler de ça. Une xième fusillade cette année. La réaction de Kamala Harris qui est en rassemblement. Je vais aussi te parler d'une situation dans la famille Wald. C'est une chicane de famille parce que le frère votera pour Donald Trump et non pour Kamala Harris. Je rappelle que témoin, c'est le coulissier de Kamala Harris.
Il s'inscrit, le frère Walz, dans une riche tradition américaine. C'est arrivé souvent que des membres de la famille prennent position contre le candidat ou la candidate.
Même des pubs et pour le candidat ou
On dirait que ça vient avec le territoire à quelque part. Merci Valérie, on se retrouve dans un moment. Salut Maker.
Salut Philippe.
Alors, tu nous parles de basketball.
Oui, parce que la Place Belle va être occupée, on l'a entendu, avec la Ligue de hockey féminine, mais avec du basketball et également de la G League. Je vous en parle tantôt, je vous parle de l'équipe, mais aussi des implications peut-être pour le futur.
Excellent. Salut Michel Boisvert.
Bonjour Philippe.
Alors, je t'ai vu saluer le ministre Fitzgibbon. Vous êtes encore à Paris quand tu étais délégué général.
Mais oui. J'adorais recevoir le ministre Fitzgibbon.
Bon, excellent. Alors, tu vas écouter l'entrevue et j'imagine que tu vas mettre ton grain de sel par la suite.
On verra bien.
Très bien, Michel.
Au réseau Cogeco Média, vous écoutez Le Québec maintenant.
Alors, il était ministre de l'économie, de l'innovation et de l'énergie, ministre responsable du développement économique régional, ministre responsable de la métropole et de la région de Montréal. Beaucoup, beaucoup de titres. C'est pas pour rien qu'on l'appelait le super ministre du gouvernement Legault, Pierre Fitzgibbon, qui a annoncé sa démission hier. Monsieur Fitzgibbon est en studio. Bonjour.
Bonjour, Monsieur Quentin.
Monsieur Fitzgibbon, je vous en glissais un mot tout à l'heure. Quel soulagement vous habite aujourd'hui, là, quand vous prenez un peu de recul, là?
C'est un mélange d'émotions parce que c'est un métier que j'ai adoré faire pendant six longues années, dans le sens que c'est beaucoup très exigeant. Puis il y a plus d'émotion. Il y a l'émotion, puis il y a un soulagement aussi, parce que je pense que je suis rendu à la fin de l'épisode. Je pense que c'est une bonne chose pour le gouvernement et pour moi de faire un remplacement.
Pourquoi?
Ben écoutez, M. Legault, avec 2 ans avant la fin du mandat, voulait obtenir l'assurance de ses ministres, qu'on était pour continuer jusqu'à la fin, puis même passer pour la prochaine campagne. Et j'avais souligné à M. Legault, M. Koskinen, il y a quelques mois, que je ne me voyais pas continuer après l'adoption du projet de loi, parce que, bon, je parlais de motivation, il n'y a pas de choses spécifiques, mais bon, dans cet environnement-là, quand j'ai joint le parti de M. Legault en 2018, on parlait d'harmonie. Hein, M. Legault disait, il faut être harmonieux dans le parti, que le monde soit solidaire, et il faut être passionné. Si on ne l'est pas, c'est difficile de faire ce métier-là. L'harmonie a toujours existé. Mes collègues, je pense qu'on a eu une très bonne relation. La motivation, ben, je commençais à en perdre un peu. Je n'étais pas démotivé. Alors, je me suis dit, pourquoi faire une promesse que je ne tiendrai pas? Puis je pense que je devais, M. Legault, de dire la vérité. Donc, on s'était entendu à ce moment-là que je continuerais jusqu'au projet de loi. Et en fin de semaine, lundi, il m'a fait part, ben, dans ces circonstances-là, considérant que ça pourrait être une distraction pour l'équipe de M. Legault et pour M. Legault, je pense que c'est mieux de quitter présentement. Alors, je pense que c'est la bonne décision.
Donc, quand vous êtes venu ici rencontrer Patrick Lagacé mardi matin, vous le saviez que vous alliez annoncer votre démission durant la journée.
J'avais accepté En fait, j'avais accepté l'entrevue avant de savoir que ça arriverait. C'est arrivé lundi, alors j'avais deux choix. Je cancelais l'entrevue, je voulais l'entrevue. Donc, je voulais être cohérent, venir à l'entrevue. Surtout que le sujet était un sujet important, que le filière des batteries, puis que je quitte ou non, c'est le propos aurait été les mêmes. Effectivement, j'étais ici sachant qu'il y aurait l'annonce en fin de journée. C'est, bon. Pas, c'est pas idéal, mais bon, dans les circonstances, c'est correct.
Petit mensonge blanc de circonstances, je vous comprends bien.
Ouais. Ben, ouais. Fallait, en fait, le plan qui était bien concocté, c'est que j'allais présenter ma démission au caucus des 90, des plus 89 députés, mardi soir. Il y a eu une fuite dans les journaux dans la journée, malheureusement, parce que le plan, c'est ça, je parlais aux députés, qui l'auraient appris. Conférence de presse ce matin, puis je m'en ai pour ça ici voir des gens comme vous en entrevue.
Vous savez, d'un œil externe, c'est un peu compliqué à comprendre pourquoi vous étiez un peu démotivé. Vous étiez au sommet de ce cabinet, là, à quelque part, ministre extrêmement influent. Vous aviez une influence dans beaucoup de dossiers très importants pour le Québec. Pourquoi cette démotivation?
Ouais, je comprends. C'est une question, c'est très difficile à répondre. Parce qu'il n'y a pas un élément en particulier, c'est un agrégat, un amalgame de plusieurs choses. C'est un métier, je pense que vous le savez, c'est un métier qui est excessivement exigeant. Le côté personnel, alors je me suis investi beaucoup, j'ai travaillé très, 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 très fort pendant 6 ans. À un moment donné, on arrive à un moment donné et on se dit, est-ce qu'on a tous encore cette motivation-là? Le travail est motivant, je le disais aux ondes de M. Arcan à plusieurs reprises, c'est le travail le plus motivant que j'ai mis intellectuellement dans ma carrière. 6 ans. J'étais quand même, malgré tout, le ministre de l'économie depuis longtemps en poste, après Jean-Paul Beaulieu, qui a été ministre de l'économie de 1944 à 1960.
Mon Dieu, vous avez fait vos devoirs.
Ben, de cette manière, on se pose la question. Mais 6 ans, ministre de l'économie, là, c'est pas vu là, depuis l'histoire du Québec contemporain. Donc, je ne pars pas. Je pars avec le sentiment de devoir accompli. Je pars très heureux avec tout ce que j'ai fait. Rien n'est fini, mais en politique, on finit jamais quelque chose. Hein, c'est toujours à continuer. Donc, dans ce contexte-là, et de quitter dans un an, 9 mois avant l'élection, là, on quitte aujourd'hui. Dans 3 semaines, on ne parlerait plus de ça. Là. On parlerait d'autre chose.
Vous pensez?
Oui. Parce que la beauté de la politique, c'est que, tu sais, le projet de loi, on parle de mon projet de loi, il y a 50 personnes qui travaillaient dessus pendant un an. Ça a pris un an à faire ça. Alors, je peux vous garantir que ça va se faire, le projet de loi, aussi harmonieusement avec d'autres personnes. Les débats vont avoir lieu de toute façon. Alors,
On y reviendra dans un moment. Je veux juste revenir là, sur votre départ. Vous dites que, bon, vous auriez préféré ou vous envisagiez de rester grosso modo jusqu'à Noël. Quand vous avez mis M. Legault au courant de ça, il vous a dit, ben, c'est peut-être mieux de partir dès maintenant. Donc, il vous a demandé clairement de partir dans le contexte. Mais est-ce que vous avez eu des désaccords fondamentaux avec lui? Il y a des gens qui évoquent toute la question des hausses des tarifs d'électricité. Vous avez dit que peut-être qu'on paierait plus cher dans 5 à 10 ans. M. Legault semble s'en tenir aux 3 %. Vous avez eu un débat aussi sur la place de l'auto dans nos sociétés. Vous aviez dit qu'il faudrait peut-être cesser d'utiliser autant les autos. M. Legault semblait pas passer de la même façon. Avez-vous eu des désaccords de fond avec lui?
Je n'ai pas de désaccords. Pour les tarifs d'hydroélectricité, c'est un bon exemple. Moi, j'ai toujours dit que les coûts des services vont augmenter. Je pense que c'est la vérité de la police. Comme on dit, M. Sébia va investir 160 milliards dans les prochains 10 ans. C'est sûr que les coûts vont augmenter. L'autre question, c'est qui va payer pour? Et je pense que M. Legault, ce qu'il a voulu faire, à juste titre, c'est de calmer ou de ne pas alarmer la population. On disait, il n'y aura pas de hausse de taux à haut de 3 % pour un bout de temps, tant que le premier ministre. Pourquoi il dit ça? Il dit ça parce que faut le débat de fond sur savoir quels sont les coûts additionnels. On ne les connaît pas encore, en passant. Hydro-Québec n'est pas donné encore. C'est ça, on écrit pendant qu'on le lit. Alors, il va y avoir une discussion. On va-tu faire des barrages? On va-tu faire du nucléaire? On va-tu faire des éoliens dans votre cour? Quand on va voir l'agrégat, tout ça, c'est le programme, le PGIR, que j'ai appelé, qui est le programme de gestion intégrée des ressources énergétiques. Ça va prendre 12 à 18 mois à faire ça. Avec des consultants, on va s'engager. Ben là, pas moi, on engage, c'est le gouvernement qui va faire ça, c'est le ministère de l'Énergie. M. Legault a dit, pendant ce temps-là, là, calmons le jeu. Parce que le débat n'a jamais eu lieu au Québec. On n'a jamais parlé de tarification parce que nous avions des surplus hydrauliques, nous avons des surplus d'eau, de tout. Là, d'un coup, oups, on n'a plus de surplus. Là. Ils vont dire, qu'est-ce qui est arrivé avec le ministre de l'Économie? Pourquoi ça a tout changé en l'espace de 2 ans? Alors, je pense que M. Legault a pris une décision sage. Je pense qu'il faut se donner du temps. Puis la hausse des coûts auxquels je réfère va arriver d'ici 3, 4, 5 ans. Ça n'est pas le matin. L'année prochaine, 2 ans, il n'y a pas de changement qu'il va y avoir. Je pense que c'est une bonne guerre de rassurer les gens.
M. Fitzgibbon, dans votre réponse, vous venez d'évoquer le nucléaire. Et ça, c'est un débat également qu'on risque d'avoir au Québec. À tort ou à raison, vous avez été identifié en faveur du développement de l'énergie nucléaire. Est-ce qu'on pensait comme vous dans le reste du gouvernement?
Écoutez, le débat n'a même pas eu lieu. Moi, je n'ai pas dit qu'il faut le nucléaire. Ce que j'ai dit, par contre, je le répète, c'est que si on veut décarboner, ça va nous prendre 150, 170 térawattheures d'électricité. Si on fait juste des barrages, ben, ça va en prendre 15 ou 20. Est-ce que ça va arriver? Je pense pas. Si on fait des éoliens, ben, ils vont en avoir de cours. Est-ce qu'on en veut? Oui ou non? Si on n'en veut pas, ben, là, on fait quoi? Du solaire? Oui, mais c'est pas ça qui va être. Alors, forcément, le débat du nucléaire doit avoir lieu, mais il y a